L'Assemblée de Dieu par André Gibert. Première partie. Principe du rassemblement chrétien. Introduction. Les instructions et les exhortations du Nouveau Testament considèrent rarement le chrétien à l'état isolé, mais comme faisant partie d'un ensemble, celui des saints. Romains 1, verset 7.
À tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
1 Corinthiens 1, verset 2.
À l'Assemblée de Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints appelés avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur Seigneur et le nôtre.
1 Corinthiens 14, verset 33.
Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints.
1 Corinthiens 16, verset 1er.
Or, pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, comme j'en ai ordonné aux assemblées de Galatie, ainsi faites vous aussi.
Jude 4.
Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ.
Etc. Cette qualité de saint n'est pas, du reste, le résultat de mérites quelconques en eux. Ils sont saints par l'appel de Dieu, en vertu de l'œuvre parfaite de Christ. Ils sont tous des frères saints participants à l'appel céleste. Hébreux 3, verset 1er. La portée de ces enseignements est le plus généralement collective. Même quand Paul ordonne à quiconque prononce le nom du Seigneur de se retirer de l'iniquité, ou qu'il stimule Timothée en lui répétant « Mais toi », il dirige la pensée du fidèle vers une compagnie avec laquelle ce fidèle peut et doit servir le Seigneur. Les termes de l'injonction de 1 Timothée 6, verset 11, « Fuis, poursuis », se retrouvent en 2 Timothée 2, verset 22, mais accompagnés, pour un temps de ruine plus accentué, de cette précieuse indication avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
1 Timothée 6, verset 11, « Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. » 2 Timothée 2, verset 22, « Mais fuis les convoitises de la jeunesse et poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. »
Aussi est-il de toute importance de savoir pourquoi, où, comment, avec qui, nous avons à nous rassembler selon Dieu. Trop souvent, on suit simplement à cet égard les habitudes de sa famille, de son milieu ou de son pays. Le monde christianisé se compose de très nombreux groupements qui tous se qualifient de chrétiens, et dont certains portent expressément, officiellement même le nom d'église ou assemblée, avec une appellation caractéristique, église catholique diverse, église anglicane, réformée, luthérienne, presbytérienne, méthodiste, libre, baptiste, etc. La liste de toutes les dénominations serait longue. Beaucoup d'esprits sincères, émus de cette dispersion, travaillent en ce moment de divers côtés en vue de faire ce que l'on appelle l'unité de l'Église. Cela consiste à réunir des membres d'Églises différentes pour se mettre d'accord sur un certain nombre de points communs. Malheureusement, ces points se trouvent n'être pas toujours les points essentiels, c'est-à-dire les vrais points de doctrine. Les promoteurs les plus convaincus de ce mouvement œcuménique, autrement dit universel, s'entendraient-ils même entièrement sur la définition du chrétien? Comment alors définir cette Église universelle dont se réclament pourtant nombre de liturgies? Que dire des divergences d'opinion sur l'inspiration des Écritures sur la divinité de Jésus, sur la réalité de sa résurrection. Aura-t-on même une conception de Dieu valable pour tous? Alors, que reste-t-il? Certes, nous voulons nous réjouir de tout ce qui tente à rapprocher pacifiquement les hommes. Nous reconnaissons qu'il est humainement très estimable de proclamer un commun attachement aux enseignements du Christ dans l'espoir d'améliorer le monde, à le supposer améliorable. Nous sommes plus heureux encore à la pensée que beaucoup de ceux qui travaillent à cette œuvre avec une bonne volonté incontestable sont de vrais et chers enfants de Dieu. Mais en de telles matières, la bonne volonté ne suffit pas. Le moins que l'on puisse dire de ces généreux efforts est que, appliqués à élaborer des compromis qui réservent les convictions profondes de ceux qui en ont, et à édifier une église tout en laissant subsister des églises disparates, ils ne se réfèrent point franchement aux enseignements de la parole de Dieu sur la véritable unité chrétienne et le rassemblement selon lui. C'est à cette parole qu'il faut nous adresser. Une première et essentielle constatation à faire est que jamais elle n'envisage des églises différentes entre lesquelles les croyants se trouveraient répartis et qu'il faudrait unir. Elle parle d'eux comme faisant partie d'une seule et même église, dont il peut y avoir un grand nombre de manifestations locales sans doute, mais dont chacune de ces assemblées locales n'est qu'une expression. Elle ne reconnaît point d'autre église que celle-là. De graves confusions proviennent de ce qu'on mélange sans cesse deux points de vue très différents. D'une part l'Église, telle qu'elle est aux yeux de Dieu, d'autre part la forme que sur la terre les hommes ont donnée à cette Église. Le dessein et la pensée de Dieu d'un côté, de l'autre la responsabilité de l'homme et les résultats de son travail propre. Et pour savoir comment nous conduire au sein de l'Église telle qu'elle existe sur la terre, il faut avoir d'abord une idée juste de ce qu'elle est aux yeux de Dieu.